franceinter.fr. La science de l'environnement, en partenariat avec reporter.net, le quotidien de l'écologie.
Et avec l'Amazonie qui héberge une diversité de formes de poissons uniques au monde, aujourd'hui donc à la une de la science.
Pêche miraculeuse.
Ah bon ?
Il y a toute une...
Qu'est-ce que c'est ça ?
Si, ça c'est un Nanostomus trimaculatus.
Très bien. Et celui-là, qu'est-ce que c'est, Christophe ?
Ça c'est un petit Mesonota festivus.
Ah oui.
Il a une petite feuille sur la bouche, mais bon, ouais, c'est ça. Il y en a déjà plusieurs
là,
autres.
C'est du Loricaria. Là, il y a une variété infinie de poissons, là. Il y a au moins 15-20 espèces.
Et extrait d'un reportage tourné en 2012 autour d'une expédition sur le Rio Napo. C'est un affluent justement de l'Amazone entre le Pérou et l'Équateur. Catherine Decopé.
Alors deux équipes de chercheurs français se sont attelées à la tâche difficile d'observer quelques 9000 espèces de poissons d'eau douce sur les 13000 que compte la planète. Et leurs résultats montrent que seules certaines régions du monde concentrent l'essentiel de la diversité en termes de forme, donc de morphologie, monsieur.
Bonjour Sébastien Brosse.
Bonjour.
Vous êtes en ligne avec nous, chercheur en biologie au laboratoire CNRS Évolution et Diversité Biologique. C'est à l'Université de Toulouse 3, Paul Sabatier. Vous faites partie justement de l'équipe qui a mené cette étude. Et puis en studio avec nous, comme tous les lundis, avec reporter.net, Hervé Kempf. Bonjour Hervé.
Bonjour Mathieu.
Une étude d'Hervé qui se concentre donc sur la diversité fonctionnelle des poissons. Pourquoi exactement ?
Eh bien, parce qu'en fait, cette étude va nous apprendre beaucoup de choses sur l'Amazonie, mais aussi effectivement sur le concept de biodiversité. Parce qu'elle fait émerger une biodiversité qui est connue des spécialistes, mais pas vraiment du grand public. Quand on parle habituellement de biodiversité, on parle de la biodiversité taxonomique, c'est-à-dire des espèces. Et dans celle-ci, les espèces sont décrites et inventoriées selon leur caractère. Par exemple, le nombre de jambes ou de nageoires, la présence de tel ou tel organe. Et puis aussi leur ascendance ou leur famille. Mais cette autre approche, la biodiversité morphologique, dont va nous parler Sébastien Brosse, qu'on appelle aussi fonctionnelle, c'est une biodiversité des formes. C'est-à-dire qu'on va s'interroger sur la taille et la position, par exemple, de l'œil et de la bouche, sur la longueur des organes, sur l'épaisseur du corps. On dit donc que c'est une biodiversité fonctionnelle parce que ces formes, ces différentes formes correspondent à des fonctions, à des adaptations de chaque espèce à son écosystème. Et ce qui est le plus surprenant dans cette étude, c'est que l'on découvre que ces biodiversités taxonomiques, celles que l'on connaît le plus, et la biodiversité fonctionnelle, eh bien, elles ne correspondent pas exactement.
Catherine.
Alors, Sébastien Brosse, comment avez-vous procédé ? Donc, 9000 espèces de poissons d'eau, j'imagine que vous n'êtes pas allé sur tous les endroits du monde qui les contiennent. Expliquez-nous votre méthode.
Non, tout à fait. On n'est pas allé sur tout le globe. On a utilisé en priorité nos photographies de terrain, donc de nos zones d'études, et nous avons ensuite complété ces données par une revue de la littérature, à travers la littérature scientifique, mais également en allant visiter des muséums. Nous avons pris des photos de toutes les espèces de poissons que nous pouvions trouver.
Et vous avez regardé quoi sur ces poissons exactement ?
Alors, on a fait sur chaque espèce une dizaine de mesures qui concerne deux grandes fonctions, la fonction de nutrition, la prise alimentaire, et la fonction de locomotion. Et on a fait ça en mesurant, par exemple, la taille de la bouche, la taille de l'œil, la taille et la forme des nageoires ou la forme du corps.
Alors l'œil, il sert à quoi exactement ?
Alors, il sert à tout. À tout pour nos deux fonctions. C'est-à-dire qu'il sert à la locomotion, à se repérer dans le milieu, mais il sert aussi à la nutrition, à repérer les proies.
Alors Sébastien Brosse, Hervé le disait il y a un instant, vos résultats donc montrent que la diversité des formes ne se superpose pas, c'est ça, la diversité des espèces dans les régions du monde.
Oui, c'est ça. En fait, on s'attend à avoir une augmentation des fonctions lorsqu'on augmente le nombre d'espèces. C'est vrai, ça marche. Mais par contre, selon les continents, on a une relation qui est plus ou moins forte et plus ou moins, on a plus ou moins de diversité fonctionnelle. On se rend compte, par exemple, qu'en zone amazonienne, en Amérique du Sud, bien, on va abriter 40% des espèces de poissons d'eau douce, et ces 40% d'espèces de poissons d'eau douce contiennent 80% de la diversité morphologique des poissons du globe.
Donc ça n'a rien à voir, en fait, entre les deux.
Alors, c'est deux choses très différentes, oui, bien sûr.
Et comment ça s'est développé au cours de l'évolution, en fait ?
Alors, en fait, sur la zone sud-américaine, on va avoir plus de groupes de poissons, plus de familles ou d'ordres de poissons. Et parmi ces groupes de poissons, certains sont extrêmement diversifiés et vont s'être spécialisés dans différentes fonctions. Par exemple, chez les poissons-chats, qui sont très diversifiés en Amérique du Sud, on va retrouver aussi bien des gros prédateurs qui vont avoir une espèce de bec de canard, on va retrouver des poissons brouteurs d'algues là qui savent à peine nager, qui vont mimer des brindilles, on va en avoir d'autres qui vivent enfouis dans le sable. Et tout cela va faciliter la formation de différentes formes de poissons. Va sélectionner différentes formes.
Sébastien Brosse, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que ce ne sont pas forcément les espèces les plus rares qui sont les plus diversifiées en termes de formes.
Non, pas du tout. On peut trouver tous les cas de figure. C'est-à-dire que certaines espèces peuvent être de formes extrêmes et être relativement communes. On peut avoir aussi beaucoup de redondance, on peut avoir plusieurs espèces qui ont une forme assez extrême. Et au contraire, des espèces de formes très, très courantes.
On peut donner un exemple, par exemple l'anguille. Alors on peut parler de cet exemple-là qui est quand même assez éclairant. Pourquoi l'anguille ?
Alors tout à fait, le cas de l'anguille en Europe ou en Amérique du Nord, c'est un cas extrême pour le continent européen ou nord-américain. C'est-à-dire qu'il y a peu d'espèces, voire même c'est la seule espèce, de forme serpentiforme, hein, forme de serpent dans cette zone. Et donc, si cette espèce disparaît, on perdra une grande quantité de diversité fonctionnelle.
Et donc l'Amazonie, donc c'est un cas très intéressant parce que là vraiment se situe la plus grande diversité morphologique pour ces poissons d'eau douce.
Oui, tout à fait. Donc l'Amazonie contient 80% de la diversité morphologique des poissons d'eau douce du globe, alors que les autres zones vont contenir entre 5 et 15% chacune.
Qu'est-ce qui explique d'ailleurs cette très grande diversité ? Le climat en particulier ou pas seulement ?
Alors le climat et l'histoire évolutive de cette zone. Qui abrite énormément d'espèces, que ce soit pour les poissons ou pour d'autres organismes. C'est une zone très riche en espèces.
Est-ce que votre travail avec vos collègues, vous compliquez pas la tâche de ceux qui cherchent à protéger la biodiversité ? Parce que déjà qu'on n'a pas énormément de succès sur la biodiversité taxonomique, c'est-à-dire la préservation des espèces, là vous venez nous dire, en plus il y a une biodiversité morphologique. Comment on va s'y retrouver ?
Alors je pense pas que ça complique la tâche, au contraire ça complémente. C'est-à-dire qu'il est important de conserver des zones qui sont très riches en espèces, qui abritent beaucoup d'espèces, mais il est tout aussi important de conserver des zones qui sont moins riches en espèces, mais qui abritent des espèces particulières. De la même manière, on peut s'intéresser en particulier à la conservation de zones où quelques espèces vont être responsables de l'essentiel de la diversité morphologique, c'est-à-dire qu'elles sont responsables de l'essentiel des fonctions de ces zones. Donc si on fait disparaître ces quelques espèces, bien on peut avoir des modifications de fonctionnement d'écosystèmes extrêmement importantes.
Malheureusement, pour l'instant, on ne prend pas du tout en compte, j'imagine, ce critère de diversité morphologique.
Alors, il commence à être pris en compte, la diversité fonctionnelle commence à être prise en compte dans les indices d'estimation de qualité de l'environnement. Alors, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, mais on y travaille.
Eh bien, continuez le boulot, alors, Sébastien Brosse. Merci beaucoup de nous avoir éclairé sur cet aspect peu connu, effectivement, autour des espèces. Et là, en l'occurrence, donc, pour ces poissons d'eau douce en Amazonie. Sujet qu'on retrouve, bien sûr, sur le site de reporter.net, Hervé.
Tout à fait.
Et à la semaine prochaine. Et à demain, Catherine de Copey.
À demain, Mathieu.
Merci beaucoup. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, des sépultures vieilles de 2500 ans exhumées au Laos. C'est une équipe de chercheurs australiens qui vient de découvrir des restes humains en pleine terre, dans la plaine des Jars. Ce site, considéré comme un des plus grands gisements archéologiques d'Asie du Sud-Est, fait partie des 90 champs d'urnes répertoriés à ce jour dans cette région. Découverte qui confirme le caractère funéraire du site, qui tire son nom de la présence de gigantesques jarres taillées dans la pierre, des contenants qui auraient vraisemblablement eu un usage funéraire également. L'étude du lieu était jusqu'ici presque impossible en raison de la présence de nombreux engins explosifs dans le sous-sol suite aux différents conflits dans cette région au XXe siècle. Désormais, lieu sûr et nettoyé, bien le site devrait bientôt délivrer ses autres secrets grâce à cette campagne d'études australiennes. Le nombre de tigres sauvages dans le monde serait en croissance. C'est la première fois depuis plus d'un siècle que cette tendance positive est observée. Cette annonce a été faite aujourd'hui à l'occasion de la 3e conférence mondiale qui se tient à New Delhi en Inde. Le nombre total de tigres sauvages s'élève à 3890 individus. C'est donc précis, dans une grande majorité justement en Inde. En 2010, les 13 pays du monde présentant le plus de tigres se sont engagés à doubler le nombre d'animaux pour atteindre les 6000 en 2020. 2022, un objectif qui sera difficile à atteindre. Malgré cette bonne nouvelle, l'espèce étant toujours menacée par le braconnage et la consommation de produits tirés de cette chasse. Et puis les lauréats du livre d'astronomie de Ciel et Espace a été dévoilé la semaine dernière. C'est André Braik et Bradford Smith qui sont cette année récompensés par la revue pour leur ouvrage Terre d'ailleurs, publié chez Odile Jacob. Le jury présidé par l'astrophysicien Roland Lehoucq a également attribué le prix jeunesse au livre documentaire Au cœur de l'espace chez Gallimard Jeunesse. Christophe Chaffardon et l'illustrateur Kiko y présentent de façon ludique les connaissances clés sur l'exploration spatiale pour les 6-9 ans.